Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'armée turque, épaulée par l'armée syrienne libre, va franchir sous peu la frontière turco-syrienne, annonce faite cette nuit par le directeur de la communication du président Erdogan. De leur côté, les Kurdes menacent à présent de se tourner vers Damas et Moscou.
En Équateur, après que le Parlement a été brièvement envahi hier par des manifestants protestant contre la hausse massive des prix de l'essence, le président Moreno a ordonné un couvre-feu autour des lieux de pouvoir.
L'OCDE a proposé ce matin une réforme en profondeur de la fiscalité transfrontalière. Objectif donner davantage de marge de manœuvre aux États pour taxer les multinationales.
La facture du chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche, dans votre journal également. Cette facture allait encore s'alourdir de 1,5 milliard d'euros pour atteindre un coût total estimé à 12,4 milliards d'euros.
Les premières épreuves du nouveau baccalauréat se dérouleront dès le mois de janvier, mais d'ores et déjà, le syndicat SNES-FSU dénonce un niveau inédit d'impréparation. Enfin, c'est aujourd'hui que les responsables du site d'investigation Mediapart, poursuivis en diffamation par François Drouet, doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Fabrice Lorvaux, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit et des médias. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À tort ou à raison, Orwell, au cœur de la deuxième partie de l'émission, 70 ans après sa mort, est-il toujours un écrivain d'aujourd'hui? Qu'a-t-il encore à nous dire du monde dans lequel nous vivons? Nous en parlerons avec le journaliste Adrien Jolmes et Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire.
Merci et à tout à l'heure. La Turquie lancera-t-elle son offensive en Syrie contre les Kurdes en dépit des atermoiements du président américain Donald Trump, lequel, après avoir laissé entendre qu'il était prêt à lâcher ses alliés dans la lutte contre Daesh, assure désormais le contraire. Toujours est-il qu'hier, Ankara a acheminé de nouveaux véhicules blindés à sa frontière tout en précisant que tous les préparatifs en vue d'une telle opération étaient désormais achevés, de quoi renforcer un peu plus encore l'impression qu'une telle attaque est potentiellement imminente. Il faut dire que si les desseins de Donald Trump à ses maîtres dans l'art du brouillage de pistes restent toujours confus, les intentions de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont quant à elles parfaitement claires. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Kurdes s'accrochent à présent à l'espoir que quelqu'un pourra les sauver de leur pire ennemi. Alors sera-ce la Russie ? Moscou n'aurait sans doute pas grand-chose à gagner à voir la Turquie s'emparer durablement d'une partie de la Syrie au risque de provoquer une nouvelle guerre, ou plus simplement Bachar el-Assad lui-même, le seul a priori à même de les défendre en l'absence de la moindre réaction audible de la part des Européens. Seule certitude, les Kurdes n'ont aujourd'hui plus rien à perdre. Les précisions de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Nous proclamons la mobilisation générale pendant 3 jours. Nous appelons notre peuple à se diriger vers la frontière pour assurer la résistance. Communiqué de l'administration semi-autonome kurde ce matin, alors que le pouvoir turc répète ces dernières heures que son armée va franchir sous peu la frontière après un feu vert de son parlement hier. Ankara annonce aussi l'appui de l'armée syrienne libre, autrefois fer de lance de la lutte contre le régime de Bachar el-Assad et dont les résidus sont soutenus par la Turquie dans la province voisine d'Idlib. Sur le terrain, des positions kurdes ont été bombardées la nuit dernière, des secteurs frontaliers d'où se sont retirés lundi des troupes américaines. Pas de victimes selon les forces kurdes qui n'ont pas répliqué. L'aviation turque dit aussi avoir mené des raids à la frontière entre l'Irak et la Syrie pour empêcher l'acheminement de renforts au Kurdistan syrien. La perspective d'une invasion turque s'intensifie, mais la diplomatie aussi. Pression de l'Europe et des États-Unis en coulisses via le Pentagone pour qu'Ankara ne se lance pas dans une opération unilatérale ou au moins qu'elle soit limitée à quelques secteurs ou à une bande de quelques kilomètres seulement en territoire syrien. Des hauts gradés des Américains ont d'ailleurs indiqué qu'ils ne laisseraient pas l'aviation turque pénétrer l'espace aérien du nord-est syrien qu'ils contrôlent. Pression aussi de la Russie, qui joue maintenant les médiateurs entre le pouvoir syrien et les Kurdes pour qu'ils trouvent un accord. Le régime de Damas n'entend pas céder une partie de son territoire à la Turquie, mais il conditionne un éventuel soutien avec ses parrains russes et iraniens à un retour dans son giron du Kurdistan syrien, devenu semi-autonome, difficile à digérer pour des Kurdes qui déplorent la trahison de l'Occident et se retrouvent aujourd'hui pris entre le marteau d'Ankara et l'enclume de Damas.
Sur la scène extérieure comme intérieure, Donald Trump s'affiche décidément comme l'homme du coup de force permanent hier, dénonçant une nouvelle fois l'enquête lancée par ses adversaires démocrates de la Chambre des représentants dans le cadre de la procédure de destitution entamée à son encontre. Le président américain a choisi rien de moins que la guerre ouverte avec le Congrès. Dans un courrier de 8 pages, la Maison-Blanche a officiellement informé les parlementaires qu'elle ne coopérerait pas à l'enquête en cours, arguant que les investigations sur l'affaire ukrainienne ne sont sont selon elle ni légitimes ni impartiales. Une décision qui pourtant pourrait elle-même constituer un motif de destitution quand l'affaire ukrainienne se mue à présent en un conflit constitutionnel inédit entre les pouvoirs présidentiel et législatif. En Haïti, la crise ne cesse de s'amplifier. Depuis un mois déjà, les villes de ce pays, comptant parmi les plus inégalitaires au monde, vivent au rythme des manifestations de l'opposition et des barricades qui paralysent toute activité. Alors c'est vrai que l'histoire récente d'Haïti n'aura jamais été franchement marquée par la stabilité. 4 premiers ministres ont été nommés en 2 ans et demi seulement de mandat et depuis 7 mois, le pays n'est dirigé que par un gouvernement démissionnaire. Quant au président Jovenel Moïse, depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, l'opposition a toujours refusé de reconnaître sa victoire à l'issue d'un processus électoral que l'on qualifiera de délicat, une crise politique donc doublée d'une pénurie d'essence qui a aussitôt relancé la contestation. Quand l'essence met là aussi le feu aux poudres en Équateur, une manifestation générale est prévue aujourd'hui, au 6e jour d'un mouvement de protestation contre des mesures d'austérité de manière générale et qui a basculé dans la violence, au point de contraindre le président Moreno d'ordonner l'imposition d'un couvre-feu, mais aussi de contraindre l'administration à délocaliser le siège du gouvernement hors de la capitale. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors précisons que l'Équateur est secoué depuis le début du mois déjà par ce mouvement social, en particulier après l'annonce de la suppression des subventions au carburant. Une situation rendue d'autant plus compliquée, Bertrand, qu'à cela s'ajoute également une crise politique aux dimensions internationales.
Oui, car le président Moreno accuse son prédécesseur Rafael Correa de vouloir déstabiliser le gouvernement équatorien avec le soutien du vénézuélien Nicolas Maduro. Des accusations rejetées par l'un comme par l'autre. Rafael Correa, réfugié en Belgique, a présidé l'Équateur pendant 10 ans jusqu'en 2017, avant de laisser la place à son ancien vice-président Lénine Moreno. L'actuel chef de l'État, une fois installé au pouvoir, a rompu avec la politique de gauche instaurée par Correa et l'a orienté vers un néolibéralisme destiné à assainir les finances du pays. La suppression des subventions au carburant qui a déclenché la colère de la foule est liée à l'attribution par le Fonds monétaire international de plus de 4 milliards de dollars de crédits. À l'étranger, les adversaires de Lénine Moreno, accusés d'orchestrer ou de soutenir les manifestations pour organiser un coup d'État, démentent toute intervention. Le vénézuélien Nicolas Maduro, qualifié de satrape par le président équatorien, ironise sur le thème « Je bouge mes moustaches et je fais chuter des gouvernements. Je ne suis pas Superman, je suis super moustache. » Depuis la Belgique, l'ancien président Correa récuse formellement toute tentative de putsch contre Lénine Moreno, mais il appelle à de nouvelles élections. En démocratie, les conflits se règlent dans les urnes et c'est exactement ce que nous demandons, dit-il sur les réseaux sociaux, en justifiant cette requête par la gravité de la crise sociale que connaît l'Équateur. Mais dans la région, le pouvoir en place à Quito bénéficie d'un appui solide. Au total, 7 pays d'Amérique latine, parmi lesquels le Brésil, l'Argentine et la Colombie, ont fait part de leur ferme soutien au président Moreno.
Merci Bertrand Galichet. En Colombie, justement, le très influent ex-président et actuel sénateur Alvaro Uribe a été longuement interrogé hier par la Cour suprême. Le leader du parti au pouvoir est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer des témoins contre un opposant politique. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État colombien doit ainsi répondre devant la plus haute juridiction du pays. La Cour doit désormais décider si elle juge ou pas l'ancien président. Sa décision pourrait prendre encore plusieurs jours. En 4 procès, Alvaro Uribe en cours 8 années de prison. Londres et Bruxelles, plus que jamais au bord de la rupture. Alors a priori, quoi de plus normal à la veille d'un divorce, à ceci près qu'à un peu plus de 3 semaines maintenant de la date prévue du Brexit, l'UE accuse désormais le Premier ministre britannique de jouer avec l'avenir de l'Europe. Londres a jusqu'à la fin de la semaine pour présenter un compromis acceptable, susceptible de conduire à une séparation à l'amiable au 31 octobre. Boris Johnson rencontrera demain à Bruxelles le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, sauf que sans même attendre cette échéance, eh bien, les deux parties ne cachent plus désormais leur pessimisme, manière sans doute de préparer d'ores et déjà les esprits à une sortie sans accord, voire au report voulu par le Parlement britannique. Enfin, à en croire le Times ce matin, Boris Johnson ferait actuellement face à une nouvelle rébellion au sein de son propre gouvernement, le journal qui indique que plusieurs personnalités seraient prêtes à démissionner en cas de sortie sans accord. En Allemagne, la justice a incarcéré hier soir pour tentative de meurtre le chauffeur fou qui a blessé 8 personnes en fonçant sur des voitures à bord d'un camion volé. En revanche, les enquêteurs restent toujours dans l'incertitude quant aux motivations de ce ressortissant syrien. Piste terroriste, problème psychiatrique ou acte lié à son statut de migrant en situation irrégulière. Le parquet de Francfort affirme qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur ses intentions. Comment éviter que les multinationales ne payent leurs impôts là où elles sont le moins taxées? L'OCDE a été chargée par les pays du G20 et du G7 de plancher sur des solutions afin d'établir une fiscalité internationale adaptée aux technologies du 21e siècle, qui passe notamment par la taxation des géants du numérique, mais pas seulement, puisque les négociations toujours en cours doivent également aboutir plus généralement à la taxation des bénéfices de toutes les multinationales. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors l'OCDE vient de publier ses propositions. L'objectif est d'atteindre dès l'an prochain une nouvelle répartition du droit d'imposer entre les pays, avec notamment cette idée, Marie, que les entreprises pourraient dorénavant être amenées à payer des impôts, y compris là où elles n'ont pas de présence physique.
Oui, depuis un siècle, les États ne peuvent taxer les entreprises que si elles ont une présence physique et enregistrent des profits sur leur territoire. Mais les grandes entreprises se sont donc organisées pour loger leurs profits là où ils étaient le moins taxés, et ces combines ont atteint des sommets avec le numérique, puisqu'il n'y avait même plus besoin d'être établi dans un pays pour y vendre ses produits et ses services. Alors ce que propose l'OCDE, c'est un système en deux temps. On garde d'abord les principes de taxation actuels, mais pour les grandes entreprises qui ont une profitabilité très élevée, le surcroît de profit peut être taxé dans les pays de marché, c'est-à-dire les pays où ces entreprises vendent leurs produits et leurs services. Alors cela concerne bien sûr les entreprises du numérique, voilà pourquoi Bercy salue ce matin une base de travail prometteuse, mais cela concerne aussi la Chine qui peut espérer plus de rentrées fiscales des géants du luxe qui font l'essentiel de leurs ventes en Asie. Ce qui reste à définir, et ça ne se sera pas simple, c'est d'abord un seuil de profit à partir duquel ce droit à taxer nouveau s'exerce. Est-ce que c'est au-dessus de 10%? Est-ce que c'est au-dessus de 20%? De ce seuil va dépendre les entreprises qui seront touchées, c'est donc crucial. Après, il faut définir comment on prélève ce surprofit et comment on le répartit entre les pays de marché. Est-ce que c'est la part du chiffre d'affaires dans le pays, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'internautes même, puisque les données qu'ils laissent sur la toile sont ensuite monnayés. Alors chacun des 134 États parties prenantes de cette négociation va maintenant pousser pour que les critères qui l'avantagent, lui, soient retenus. L'idée, c'est d'aboutir fin 2020 pour une éventuelle application de ces nouveaux principes au mieux dans les 2-3 années qui suivent. On est donc au début d'un processus, mais au début seulement.
Merci Marie Viennot. C'est un feuilleton non seulement qui dure, mais qui à mesure que les années passent pourrait également s'avérer beaucoup plus coûteux que prévu. Ce matin, EDF a revu en hausse de 1,5 milliard d'euros le coût de la construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche, désormais évalué à 12,4 milliards d'euros. Un surcoût dû à la décision de l'autorité de sûreté nucléaire de demander à l'électricien de reprendre 8 soudures sur l'enceinte de confinement du réacteur. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors depuis 1992 que cette technologie EPR, présentée comme le fleuron de la filière nucléaire française, a été lancée, c'est peu de dire que les déconvenues s'accumulent pour ce réacteur de troisième génération. Quels sont à présent les nouveaux obstacles encore à lever, Véronique?
Des problèmes de tuyauterie. 8 soudures défectueuses et difficilement accessibles. Ces soudures doivent être effectuées dans la traversée de l'enceinte de confinement du réacteur. Une enceinte en fait en béton qui, en cas d'accident, doit contenir la radioactivité. Autant dire que l'endroit est sensible. EDF, mise en demeure par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, de réparer ses soudures, avait 3 scénarios possibles. L'électricien a finalement choisi de faire intervenir des robots, 4 robots au total, robots découpeurs, soudeurs notamment. Ces robots téléopérés sont conçus pour mener des opérations de grande précision à l'intérieur des tuyauteries défaillantes. Jamais de tels robots n'ont été utilisés en France, ils viendront peut-être des États-Unis, mais avant cela, EDF doit déposer un dossier technique auprès de l'autorité de sûreté nucléaire, et le gendarme du nucléaire, l'ASN, validera ou pas cet équipement dans les prochaines semaines. Imaginons que l'autorité de sûreté nucléaire ne valide pas le scénario robot. EDF a un plan B, refaire les tuyaux à l'extérieur et les reposer à l'intérieur de l'enceinte. Encore plus compliqué et encore plus coûteux que l'option robot, qui porte, vous l'avez dit pour l'instant, la facture de l'EPR de Flamanville à 12,5 milliards d'euros. On est loin des 3,5 milliards annoncé au départ du chantier. Au mieux, l'EPR de Flamanville sera mis en activité avec 13 ans de retard en 2022. Un pur cauchemar industriel.
Merci Véronique Roberotte. Des taux plus importants que la normale, mais en dessous des seuils de toxicité. Voilà ce qu'a annoncé ce matin Agnès Buzyn s'agissant des premiers résultats d'analyse sur la détection de dioxines dans l'air le jour de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La ministre de la Santé qui a prévu de se rendre sur place en fin de semaine pour y installer un comité de suivi chargé de rendre public la totalité des résultats. On savait déjà la réforme du baccalauréat initiée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer controversée. En voilà qu'une enquête réalisée par le SNES FSU ne devrait pas manquer d'alimenter la polémique. Alors que la première session des épreuves communes de contrôle continue pour les élèves de première est prévue pour débuter dès le mois de janvier, le premier syndicat du second degré révèle un niveau inédit d'impréparation. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzet.
En clair, le SNES FSU dénonce aujourd'hui la plus grande incertitude autour de l'organisation donc des épreuves du nouveau bac.
Oui, les motifs d'inquiétude sont nombreux, à commencer par l'organisation des épreuves. Faut-il ou pas banaliser le temps pendant les examens, 60% des établissements ne le savent toujours pas d'après cette enquête. Ce qui risquerait notamment de pénaliser les élèves de seconde qui pourraient ne pas avoir cours pendant cette période d'examen. Les salles de classe devant être réquisitionnées. Ils pourraient du coup prendre du retard sur leur programme. 74% des enseignants interrogés ne savent pas non plus comment seront organisées les épreuves le jour J. Pire, les indications pédagogiques pour évaluer les élèves font toujours défaut, selon Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES.
Ils ne savent pas quels seront les sujets. La banque de sujets n'est toujours pas connue des collègues. Ils n'ont pas de fiche d'évaluation. C'est le flou total, aussi bien d'ailleurs pour les familles, les élèves et les professeurs.
Du coup, le SNES demande le report des épreuves de janvier, qui sont, pour rappel, le tronc commun, à savoir l'histoire, les deux langues vivantes et même aussi en plus les mathématiques pour les filières technologiques. Avec la réforme du bac, rappelons-le Thomas, le contrôle continu représentera désormais 40% de la note finale.
Merci Hakim Kasmi. Le prix Nobel de chimie 2019 a été attribué ce matin à l'américain John Goodenough, au britannique Stanley Whittingham ainsi qu'au japonais Akira Yoshino, tous trois récompensés pour leur travail sur le développement des batteries lithium-ion que l'on retrouve notamment dans nos téléphones mobiles, nos ordinateurs portables et jusqu'aux véhicules électriques. Des batteries qui ont en somme révolutionné nos vies en jetant les fondations d'une société à la fois sans fil mais aussi libérée des combustibles fossiles. C'est aujourd'hui que les responsables du site d'investigation Mediapart, poursuivis en diffamation par François de Rugy, doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Alors l'assignation ne porte pas sur la révélation des dîners fastueux à l'Assemblée nationale de l'ancien ministre de l'écologie démissionnaire, mais sur un article concernant un logement à vocation sociale qu'il avait occupé dans la banlieue nantaise. Un procès qui s'ajoute donc à de très nombreuses procédures ces derniers mois, y compris des convocations de journalistes par la DGSI. Au point que l'on peut se demander si la presse, déjà économiquement fragilisée, n'est pas aujourd'hui et plus que jamais fragilisée aussi judiciairement. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des médias. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
Et à mes côtés pour vous interroger. Éric Chavroux, bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Une première question monsieur Lorvaux. S'agissant de Mediapart, on peut s'étonner des arguments de François de Rugy qui aujourd'hui dit n'attaquer le site d'information en ligne que sur un article, en l'occurrence donc celui concernant son logement, au prétexte qu'une procédure judiciaire coûterait trop cher.
Effectivement, le droit est extrêmement complexe, donc je peux comprendre son souci au niveau des honoraires. J'ai noté qu'on lui avait rappelé l'existence de l'aide juridictionnelle, et il faut rappeler que ce coût sera aussi supporté par son adversaire, qui est le journal Mediapart.
Question d'Éric Chavroux.
Alors Fabrice Lorvaux, bonjour. Est-ce que aujourd'hui, finalement, le front sur la guerre des secrets vis-à-vis de la presse n'est pas en train de croître continuellement? Il y a le secret des sources, le secret défense, le secret des affaires, et on a l'impression que ça se multiplie encore et encore.
Oui, alors vous avez tout à fait raison sur la description de la tension sans cesse croissante contre la presse, mais ça illustre tout de même l'importance de l'information dans notre société. Il faut rappeler que la presse, est le droit d'information du public est une liberté fondamentale, et que cette liberté fondamentale, elle n'est pas cependant générale et absolue. C'est-à-dire qu'elle est confrontée à d'autres libertés et en fait, on est dans la définition traditionnelle de la frontière entre ce que la presse peut dire et ce que la presse ne peut pas dire. Bon, l'action menée par Monsieur de Rugy, c'est l'action traditionnelle puisque une des limites de la presse, c'est effectivement la diffamation et l'injure. Il se considère diffamé. Ce sera aux tribunaux d'en décider. Cependant, à côté de ce match, j'ai envie de dire un peu traditionnel, c'est vrai que on s'aperçoit depuis quelque temps que on oppose à la presse pour l'empêcher de faire son travail toute une série de secrets périphériques qui sont des secrets qui sont respectables. Le secret défense a été mis en avant. Le secret sur l'identité des forces des membres des forces spéciales. Tout ça, c'est effectivement un bouclier nécessaire, mais on ne doit pas l'utiliser comme un glaive contre la presse.
Alors, on a beaucoup parlé des poursuites à répétition de Vincent Bolloré vis-à-vis de journalistes. Il a d'ailleurs été condamné pour des procédures abusives. Vous avez mis en avant des décisions récentes qui venaient des groupes Conforama et Consolis. Et vous avez même dit que, selon vous, le droit d'informer était menacé et que l'avenir de la démocratie était en jeu.
Oui, parce que dans ces affaires dites économiques, où notamment il y avait deux organes de presse qui avaient révélé le détail et l'existence de procédures de conciliation, qui sont normalement des procédures secrètes, eh bien la responsabilité de l'organe de presse a été engagée et ils ont été condamnés en dehors de la loi de 1881, qui était la seule loi qui est devant laquelle la presse devait, se justifier, eh bien, à des dommages et intérêts en l'espèce, pour un des organes de presse, de 175 000 euros. Alors, vous imaginez avec les difficultés financières de la presse, notamment vis-à-vis de la concurrence du numérique, il suffit de 2-3 procès comme cela pour faire taire un journal. Et donc, c'est cette orientation qui me semble très, très inquiétante. Et dès lors que la presse est la pierre angulaire de la démocratie, on ne peut pas à la fois lui reconnaître cette qualité et faire disparaître des organes de presse sous prétexte qu'ils auraient commis des fautes et de les condamner à des dommages et intérêts.
La presse, pierre angulaire de la démocratie, c'est ce que répètent beaucoup de politiques, mais dans le même temps, on a l'impression que le rapport est de plus en plus ambigu. Ce sont les mêmes qui vont attaquer des journalistes, y compris jusque dans des tribunaux, comme aujourd'hui François de Rugy, qui parle, je le cite, d'impunité la plus totale de la profession ou de méthode de voyou de la part de Mediapart.
Oui. Alors je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais c'est vrai que sur la question de l'impunité, on ne peut pas dire que la presse bénéficie d'une impunité. Le fait que Monsieur de Rugy puisse saisir les tribunaux pour engager la responsabilité de Mediapart démontre bien qu'effectivement il n'y a pas d'impunité. La difficulté aujourd'hui, c'est le périmètre de cette impunité. Et là, pour le moment, il est vrai qu'on est dans une tendance où on essaye de réduire le plus possible cette liberté de la presse et ça, c'est inquiétant.
Avec tout de même de nouvelles médiations, donc il y a un conseil de déontologie de la presse qui se prépare et puis il y a aussi le public lui-même qui de plus en plus va saisir des médiateurs ou le CSA.
Voilà, ça c'est vraiment aussi une innovation, c'est-à-dire que les interactions avec la presse ne sont plus limitées au sujet de l'information. Maintenant, c'est le destinataire de l'information qui a envie de s'adresser, et pour ma part, je trouve ça très bien, à l'organe de presse pour dire là, je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous avez organisé ou traiter l'information. Alors, ici à Radio France, on sait qu'il y a un médiateur qui est de plus en plus sollicité. Une médiatrice qui est de plus en plus sollicitée et il se pose la question d'institutionnaliser cette démarche en créant, et on en parle depuis un moment, il serait peut-être temps de le mettre en place,
un
conseil de la déontologie qui pourrait donner des avis. Encore une fois, c'est très important, il ne s'agit pas de mettre la presse sous un contrôle, mais sur des avis sur la manière dont l'information est traitée.
Avec l'éducation qui reste primordiale pour les enfants en particulier.
Oui, parce que défendre la liberté de la presse, c'est effectivement quelque chose d'impérieux, mais il faut rappeler que le seul régulateur de l'information, c'est l'esprit critique, et l'esprit critique, on ne l'acquiert qu'à l'école, et donc il faut autant défendre la liberté de la presse que l'éducation nationale.
Merci Fabrice Lorvaux, avocat, je le rappelle, au barreau de Paris, spécialiste du droit des médias, d'avoir répondu à notre invitation. Je signale également le titre de votre dernier ouvrage, Cheval crétois, aux éditions L'Harmattan, publié en décembre 2017, une enquête juridico-historique sur un massacre en Crète sur fond de manipulation de l'information. Et merci également à Éric Chavreau. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel encore très largement couvert et souvent pluvieux, à l'exception du pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.